de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Bonsoir et bienvenue à tous. Comment allez-vous? Je suis très heureux de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Vous êtes avec moi, Audrey. Chers amis, nous allons vous présenter un certain nombre de programmes comme le journal, les commentaires et d'autres infos. Comme l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Mon cher auditeur, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Bonsoir à tous, vous écoutez toujours la voix de l'Indonésie et bientôt je vais vous présenter les nouvelles d'aujourd'hui. Il y a quelques éléments importants à informer, entre autres. L'Amnesty International exhorte le Conseil de sécurité de l'ONU à imposer des sanctions économiques en Birmanie. Des experts de l'OMS visitent des laboratoires à Wuhan soupçonnés d'être la source de coronavirus. GSK CureVac collabore pour développer la future génération de vaccins contre la COVID-19. La Nouvelle-Zélande autorise le vaccin COVID Pfizer-BioNTech. La question du palmier à l'huile entre l'Indonésie et l'Union européenne, la Hongrie soutient un traitement équitable. Bulog peut importer 80 000 tonnes de buffles indiens cette année. Et Genose est en mesure de réaliser 100 000 tests de dépistage de COVID-19, c'est ce qu'a déclaré le ministre de la Recherche et de la Technologie. Mon cher auditeur, voici les nouvelles en complet. L'Amnesty International exhorte le Conseil de sécurité de l'ONU à imposer des sanctions économiques en Birmanie. L'Organisation de défense des droits humains, Amnesty International exhorte le Conseil de sécurité des Nations Unies, CSNU, à imposer des sanctions économiques au commandant militaire, le général Min Aung Hlaing, et à d'autres officiers de haut rang de forces armées. Le CSNU devrait également imposer immédiatement un embargo sur les armées en Birmanie, Naypyidaw. C'est ce qu'a déclaré la directrice adjointe du plaidoyer d'Amnesty International, Sherin Tadros, dans une déclaration écrite reçue par Antara compte tenu de diverses violations du droit international commises par l'armée, y compris le coup d'État contre le gouvernement légitime à Jakarta mercredi. Par conséquent, Tedros a demandé au CSNU de tenir immédiatement une réunion spéciale pour discuter de la situation en Birmanie. Elle espère également que le CSNU condamnera le coup d'État militaire en Birmanie et les arrestations de dirigeants militants et politiciens du pays. Les experts de l'OMS visitent des laboratoires à Wuhan soupçonnés d'être la source du coronavirus. Des membres de l'équipe d'experts de l'Organisation mondiale de la santé OMS enquêtent sur les origines du coronavirus COVID-19 visitent un laboratoire à Wuhan, en Chine. Les responsables américains ont désigné le laboratoire de la source de coronavirus, comme l'a rapporté l'AFP mercredi 3 février 2021. Cette visite à l'Institut de virologie de Wuhan est devenue l'un des arrêts les plus observés dans une enquête sur les origines de la pandémie de COVID-19. Cette mission sensible qui a connu ce retard a le pouvoir d'explorer comment le coronavirus passe des animaux aux humains. Lors d'une visite au laboratoire de Wuhan mercredi 3 février hors local, un convoi de voitures transportant une équipe d'experts de l'OMS semblait passer à toute vitesse devant un poste de sécurité pour entrer dans le complexe de l'Institut de virologie de Wuhan, enveloppé de brouillard matinal. La première voiture transportant l'équipe d'experts de l'OMS s'est brièvement arrêtée pour répondre aux questions des journalistes présents sur place. Un membre de l'équipe d'experts de l'OMS, Peter Daszak, a déclaré qu'il espérait que cette visite serait productive. GSK CureVac collabore pour développer la future génération de vaccins contre la COVID-19. La société britannique GlaxoSmithKline GSK et la société de biotechnologie allemande CureVac ont conclu un contrat de 150 millions d'euros, environ 2,5 billions roupias, pour développer la future génération de vaccins contre la COVID-19 qui cible plusieurs variantes dans un seul produit. Dans une déclaration commune mercredi, les entreprises partenaires ont déclaré qu'elles ciblaient un éventuel lancement en 2022. GSK, qui est actionnaire du CureVac, soutiendra également la production jusqu'à 100 millions de doses du candidat de vaccin pour la COVID-19 de première génération de CureVac en 2021. Pour GSK, plus grand producteur mondial de vaccins en termes de vente, ce plan marque un nouvel effort pour jouer un rôle pertinent dans la lutte contre la pandémie après que l'alliance COVID-19 avec Sanofi ait été entravée par des retards de développement et après la fin d'un partenariat similaire avec la société chinoise Clover Biopharmaceutical. La Nouvelle-Zélande autorise le vaccin COVID Pfizer-BioNTech. Le régulateur médical néo-zélandais MedSav a temporairement autorisé l'utilisation du vaccin COVID-19 développé par le producteur américain Pfizer et son homologue allemand BioNTech, a annoncé mercredi le gouvernement. L'approbation temporaire du vaccin Pfizer-BioNTech est une étape positive pour la Nouvelle-Zélande dans la lutte contre la COVID-19. La première ministre Jacinda Ardern l'a déclaré dans un communiqué mercredi. Cela signifie que la Nouvelle-Zélande peut désormais se préparer à la première phase du déploiement de la vaccination. Elle a déclaré que le vaccin COVID-19 devrait arriver en Nouvelle-Zélande à la fin du premier trimestre de 2021. Selon elle, les personnes les plus à risque de contracter le virus seront d'abord vaccinées avant que les autorités vaccinent l'ensemble de la communauté au second semestre de cette année. La question du palmier à l'huile entre l'Indonésie et l'Union européenne, la Hongrie soutient un traitement équitable. Le gouvernement hongrois encourage un traitement équitable dans la résolution du problème de l'huile de palme entre l'Indonésie et l'Union européenne, même si le pays fait partie du bloc. C'est ce qu'a déclaré l'ambassadrice de Hongrie en Indonésie, Judith Parr, dans une interview spéciale à Antara mercredi. Elle a déclaré que la question de l'huile de palme a fait surface dans les relations commerciales de l'Indonésie avec l'Union européenne en 2019, après que le bloc ait lancé la directive 2 sur les énergies renouvelables et les politiques de réglementation déléguées, ce que le gouvernement indonésien a appelé la discrimination dans les palmiers à huile. Pendant ce temps, le vice-ministre des Affaires étrangères de la République d'Indonésie, Mahendra Siragar, a déclaré le 14 janvier 2021 que le gouvernement indonésien était contre toute forme de protectionnisme sous couvert de campagnes différentes devant l'Organisation mondiale du commerce, OMC, en intentant officiellement une action en justice contre l'Union européenne le 9 décembre 2019. Jusqu'à présent, le procès de l'Indonésie à l'OMC sur la question de l'huile de palme avec l'Union européenne est toujours en cours. Bulog peut importer 80 000 tonnes de buffles indiens cette année. L'entreprise publique Bulog a reçu une mission d'importer de la viande de buffle d'Inde avec un total de 80 000 tonnes pour cette année afin de répondre aux besoins de consommation de viande, en particulier avant l'Aïd al-Fitr qui tombe en mai 2021. Président directeur de l'entreprise publique Bulog, Boudi Wasiso, a expliqué que le SOE alimentaire a proposé de la viande de buffle importée pour anticiper l'augmentation des prix de bœuf avant le Ramadan et l'Aïd. La mission d'importer de la viande de buffle a également été décidée lors d'une réunion de coordination limitée, RACORTAS, au ministère de coordination des affaires économiques. Boudi Wasiso a également cela mercredi lors d'une conférence de presse virtuelle Bulog. Il a expliqué que les importations seront effectuées par étapes, en fonction des besoins du marché, afin que le prix de la viande produite par les éleveurs locaux ne baisse pas et que la stabilisation des prix puisse être maintenue. Il a dit que les gens connaissent maintenant la consommation de viande de buffle et sont même capables de réduire le prix du bœuf qui est volatile sur le marché. Bulog organisera également un processus d'enchères pour les fournisseurs de viande potentiels en Inde. Genos est en mesure de réaliser 100 000 tests de dépistage de COVID-19, c'est ce qu'a déclaré le ministre de la Recherche et de la Technologie. Le ministre indonésien de la Recherche et de la Technologie en tant que chef de l'Agence nationale de recherche et d'innovation, Bambang P.S. Brojonegoro, a déclaré qu'une unité de Genos, C19, était capable de réaliser 100 000 tests de dépistage de COVID-19. L'outil de dépistage qui utilise l'intelligence artificielle est capable de détecter une personne qui n'a été exposée à COVID-19, qui pendant 2 jours, alors que le test de PCR ou le test rapide d'antigène n'a pas été en mesure de le détecter dans la même période. C'est ce qu'a déclaré le ministre de la Recherche et de la Technologie, Bambang P.S. Brojonegoro, lors de sa visite à la gare de Pasar Senen à Jakarta mercredi. Le ministre de la Recherche et de la Technologie et le ministre des Transports, Budi Karya Sumadi, ont effectué une visite de travail à la gare de Pasar Senen dans le cadre de la mise en œuvre du service Genos C19. Les nez électroniques ou dispositifs renifleurs développés par l'Université Gadjah Mada UGM pour détecter COVID-19 plus rapidement et plus précisément. L'application de tests utilisant Genos à la gare de Pasar Senen et à la gare de Yogyakarta entrera en vigueur à partir du 5 février 2021. Genos est l'un des produits innovants du consortium de recherche et d'innovation de COVID-19 sous la coordination du ministère indonésien de la Recherche et de la Technologie, agent national pour la recherche et l'innovation. Bon, chers auditeurs, c'est tout les nouvelles d'aujourd'hui.
Serge Letoc, bonsoir. Après le journal, maintenant nous vous présentons le commentaire et encore le titre. Covid-19 reporte à nouveau le pèlerinage de la Omra. Le gouvernement du Royaume d'Arabie Saoudite a de nouveau annoncé l'interdiction pour les étrangers d'entrer dans leur pays à partir du 3 février 2021 jusqu'à une heure indéterminée. Cette interdiction entraîne également la fermeture des lieux de culte à la Mecque et à Médine pour les musulmans. Cependant, l'interdiction ne s'applique que dans 20 pays, dont l'Indonésie. C'est la deuxième fois que l'Arabie Saoudite applique le confinement dans son pays aux étrangers. En février 2020, l'Arabie Saoudite a également fait de même, ce qui a abouti à une interdiction de la Omra et du Hajj pour les étrangers. Cette politique vise à contrôler le COVID-19. Dans un communiqué officiel, le ministère indonésien des Affaires étrangères a appelé les Indonésiens qui prévoient de se rendre en Arabie Saoudite à continuer d'attendre des mises à jour sur la politique saoudienne. Ensuite, le ministère des Affaires étrangères sur son site web a demandé à tous de surveiller également les dernières informations sur la politique de voyage des différents pays via l'application Safe Travel du ministère des Affaires étrangères. Cette interdiction est tout à fait normale car de nouvelles variantes de virus ont été découvertes dans certains pays. Cependant, les travailleurs de l'industrie du voyage du Hajj et de l'Omra peuvent être affectés. Par conséquent, on espère que le COVID-19 pourra être contrôlé, que la vaccination pourra être effectuée et que l'interdiction pourra être levée plus tôt. Chers auditeurs, c'était le commentaire pour ce soir.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi syaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo de getting overdragging van COVID-19 door een masker te dragen.Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Bonsoir, chers auditeurs. Voici l'histoire d'aujourd'hui qui s'agit d'événements importants. Nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement la conférence de Yalta le 4 février 1945. La conférence de Yalta, également appelée conférence de Crimée et conférence de presse Argonne, est une conférence de la Seconde Guerre mondiale qui s'est tenue du 4 au 11 février 1945.À l'approche de la chute de l'Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale, la conférence était dirigée par les gouvernements des États-Unis, de l'Union soviétique et du Royaume-Uni. Ils étaient représentés par Franklin D. Roosevelt, Winston Churchill et Joseph Stalin. Les participants à la conférence ont réaffirmé l'accord conclu lors de la conférence de Casablanca sur la reddition inconditionnelle de l'Allemagne. En outre, la conférence de Yalta a convenu d'un plan visant à diviser l'Allemagne en 4 territoires occupés par les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France et l'Union soviétique. L'autre information est sur l'indépendance de Sri Lanka le 4 février 1948. Le Sri Lanka a obtenu son indépendance de la Grande-Bretagne le 4 février 1948 et est aujourd'hui devenu la fête nationale de Sri Lanka. Sri Lanka, au XVIe siècle, est devenu une colonie portugaise et est ensuite tombée aux mains des Néerlandais. 1798, le Sri Lanka est officiellement devenu une colonie britannique. Depuis les premières années de la Première Guerre mondiale, le peuple du Sri Lanka s'est levé pour lutter pour son indépendance. Enfin, le Sri Lanka est devenu totalement indépendant le 4 février 1948. Nous terminons avec la commémoration de la Journée mondiale contre le cancer. La Journée mondiale contre le cancer est née le 4 février 2000 lors du sommet mondial contre le cancer pour le nouveau millénaire à Paris. Le sommet a produit la Charte de Paris qui vise à promouvoir la recherche, à prévenir le cancer, à améliorer les services aux patients, à sensibiliser et à mobiliser la communauté mondiale pour progresser contre le cancer et y compris l'adoption de la Journée mondiale contre le cancer. L'initiateur est l'Union internationale contre le cancer, ou OIWC, un consortium mondial de plus de 280 organisations anticancéreuses dans 90 pays. Chers auditeurs, c'était l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir.
Senja selalu sempurna, seperti kisahku dan dia. Saling menatap tapi jarang, dia membisu. Thank you.
Chers amis, c'était la première chanson pop indonésienne pour ce soir. Qu'est-ce que vous en pensez? C'était belle la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Et voici donc le programme Mon Indonésie. Bonne écoute.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici Mon Indonésie et pour le titre, Bappenas prépare une feuille de route pour la gestion des zones humides pour les mangroves. Le ministère de la planification et du développement national et l'Agence nationale de planification et du développement ou Bappenas prépare une feuille de route pour la gestion des zones humides qui servira de guide pour la gestion des mangroves et de la troupe en appui à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. C'est ce qu'a déclaré le député des affaires maritimes et des ressources naturelles du ministère de la planification et du développement national et Bappenas, Arifin Rudianto, lors d'une réunion virtuelle de lancement à Jakarta mardi. Selon Arifin, cette feuille de route est l'un des instruments de soutien pour un pilier important de la réalisation de la vision 2045 de l'Indonésie, à savoir le développement économique durable. Arifin expliquait que les avantages multifonctions des écosystèmes des mangroves et de la troupe ont un grand potentiel pour soutenir un certain nombre d'aspects tels que la croissance économique, l'économie créative, le tourisme, le maritime, la sécurité alimentaire, l'eau et l'environnement. Par conséquent, une feuille de route de gestion des zones humides sera également préparée comme guide à long terme pour soutenir la réalisation de cette vision. La préparation et la mise en œuvre de cette feuille de route seront supervisées par trois groupes de travail et travailleront ensemble et consulteront avec un certain nombre de ministères et des agences qui disposent déjà de stratégies, des plans de gestion et de données relatives aux écosystèmes de mangroves et de troupes. L'Agence nationale de planification et de développement, ou Bappenas, a formé une équipe de coordination stratégique pour la gestion des zones humides qui est chargée d'accélérer la réalisation des objectifs de développement durable le 30 octobre 2020. Arifin a ajouté, en tant qu'écosystème riche en carbone qui stocke et absorbe beaucoup plus de carbone que les forêts tropicales, les mangroves et les tourbières sont l'une des solutions fondées sur la nature pour le développement durable. Les mangroves et la troupe offrent également des avantages économiques, environnementaux et sociaux, y compris en soutenant les efforts d'atténuation et d'adaptation au changement climatique. La conservation et la bonne gestion des mangroves et de la troupe peuvent soutenir les objectifs de réduction des émissions tout en empêchant le rejet des émissions stockées dans ces deux écosystèmes. Il espère que la feuille de route pour la gestion des zones humides pourra contribuer à un certain nombre d'objectifs de développement durable d'ici 2030. Chers auditeurs, c'était mon Indonésie pour ce soir.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Cobalah bertahan
Serge Littar, c'était la deuxième chanson pop indonésienne. Vous aimez bien la chanson? Chers amis, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voines.id. Chers auditeurs, maintenant nous allons présenter le magazine culturel. Bonne écoute.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici le magazine culturel. Pour ce soir, je vais vous présenter Roti Kecik ou en français Le Pain Kecik. Chers auditeurs, si vous visitez Solo, vous devez goûter une variété de spécialités culinaires. Les spécialités culinaires en Solo sont non seulement appétissantes, mais aussi relativement bon marché. Il existe plusieurs endroits où vous pouvez vous arrêter pour obtenir une variété de délices culinaires typiques de Solo, notamment le marché de Gede, Singosaren, Grogol et ses environs. Vous pouvez y déguster diverses collations légendaires de Solo, comme roti kecik. Roti kecik ou le pain kecik a une forme ovale avec la taille d'un pouce et sa couleur est brune. Roti kecik est composé de riz gluant roti et de cannelle. Les collations qui sentent la cannelle au goût sucré et salé existent et est bien connue en Solo depuis 1881. Le magasin Genep sur la rue Sultan Syahrir était le premier pionnier à vendre roti kecik. Outre roti kecik, diverses collations typiques de Solo sont également vendues à ce magasin. Roti kecik a un goût sucré et salé. La texture est sèche et dure. Le pain kecik peut également durer jusqu'à plusieurs semaines, même s'il est fait sans conservateur. Donc, ce pain est vraiment approprié si vous pouvez l'acheter en nos souvenirs. Le prix du pain kecik est assez abordable, à savoir 7 000 rupiah pour la petite taille, 15 000 rupiah pour la taille moyenne et 20 000 rupiah pour la grande taille. Chers auditeurs, c'était le magazine culturel pour ce soir. Merci de votre attention. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À demain.
Memohon pada bintang. ingat selalu senyummu. Walau kenangan bersamamu kan pudar, sisa jejakmu akan ku cari. Ku teringat padamu nada so-so. Aku rindu,
I takut,
sangat rindu,
I takut.
Ku teringat padamu nada so-so.
Serge Littard, c'était la troisième chanson pop indonésienne. Et comment? Vous aimez bien la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Pour la rubrique suivante, voici donc l'Indonésie en couleur. Bonne écoute.
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, maintenant nous allons présenter l'Indonésie en couleur intitulée Petit l'outil de lavage automatique des mains. L'importance de maintenir l'hygiène des mains est l'un des facteurs pour réduire la propagation du virus COVID-19. Le département de génie électrique de l'Institut Technologie 10 novembre a contribué à prévenir la propagation du virus COVID-19 en fabriquant PETIS, l'outil de lavage des mains automatique. Cet outil peut maintenant être trouvé au marché de Wonokromo, Surabaya. Cet endroit a été choisi parce que c'est l'un des aspects économiques importants pour soutenir la vie quotidienne en société, pour que le marché devienne un lieu public qui continuera à produire diverses interactions entre les communautés environnantes. PETIS a une technique de travail qui est presque la même que les lave-mains portables qui existent aujourd'hui, mais il existe plusieurs fonctionnalités technologiques supplémentaires telles que les éviers automatiques, le savon automatique, la thermogun qui fourniront des résultats de température corporelle et sont connectés à des haut-parleurs. Et il y a un détecteur de ceinture des os qui vous avertira si l'eau dans les tendons va s'épuiser. Cet outil vérifiera également la température corporelle de l'utilisateur par un thermogun intégré à l'évier. De plus, les utilisateurs peuvent se laver les mains automatiquement avec du savon sans entrer en contact avec des outils. L'avantage offert par PETIS est de pouvoir vérifier la température corporelle des personnes qui souhaitent se rendre sur le marché, faciliter la sélection des acheteurs qui ont de la fièvre par les agents. L'équipe a également réalisé une socialisation sur l'importance de maintenir l'hygiène des mains et comment utiliser cet outil. Chers amis, c'était l'Indonésie en couleur de la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
yang telah kita bina bersama. Walau telah terpisah, namun ku masih sayang.
Of Indonesia.
Tak pernah terlintas menemukanmu, hangatkan dinginnya duniaku. Di setiap hari terasa indah, melebihi semua mimpi dan anganku.
Chers amis, c'était la chanson pop indonésienne. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voines.id. Sans retard, nous continuons notre programme avec le magazine musical. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous. Vous écoutez toujours La Voix de l'Indonésie et vous êtes avec moi, Audrey. Maintenant, je vais vous présenter le magazine musical et cette fois, vous allez écouter une chanson de Kenan Nasution. Chers auditeurs, le nom de Kenan Nasution s'est fait connaître lorsqu'il a fondé le groupe Sabdanada en 1966 avec ses frères et collègues. Dans ce groupe, Kenan est devenu un batteur. Au cours de sa carrière, Kenan est devenu membre de plusieurs groupes. À partir de Sabdanada, qui a ensuite changé son nom pour Gypsy en 1969. Il a également rejoint le groupe God Bless. Cependant, en 1975, il a fondé un groupe appelé le groupe Storm. Mais après cela, il était déterminé à poursuivre une carrière solo et a sorti son premier album intitulé Di Batas Angan Angan en 1978. Sa chanson à succès est intitulée Nuansa Bening, qui est intemporelle. Jusqu'à présent, la chanson est toujours agréable à écouter, d'autant plus que le jeune musicien Vidi Aliano a chanté une nouvelle version de Nuansa Bening en 2008. Cela rend certainement la jeune génération familière avec la chanson Nuansa Bening. Bon, chers auditeurs, voici Kenan Nasution va chanter la chanson intitulée Nuansa Bening. Bonne écoute. Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz. Et n'oubliez pas de nous écrire votre suggestion et critique à notre adresse de courriel voi@voinews.id. Vous pouvez suivre notre compte de Twitter, @voiindonesia, d'Instagram, @voice.of.indonesia, joignez notre Facebook de Voice of Indonesia. Regardez-nous sur notre YouTube, Voice Indonesia, et pour l'information plus détaillée, vous pouvez visiter notre site web www.voinews.id. On se rencontre demain, même heure et même fréquence. À bientôt!